Delegates, please. I think it's time to start.
Il est temps de commencer, donc je souhaite la bienvenue à tous. Je vais diriger les discussions portant sur les points 6 et 7. Nous allons commencer avec le point 6 de l'ordre du jour, qui traite des relations entre la Commission du Codex Alimentarius et d'autres organisations internationales. Nous avons trois demandes d'admission d'ONG qui souhaitent devenir observateurs auprès du Codex Alimentarius. Avant d'entamer les présentations et d'écouter les commentaires possibles, je précise qu'il s'agit d'une session privée, donc aucun enregistrement électronique de cette session ne sera fait. Je tenais à vous en informer. Et lorsque nous aborderons le point numéro 7, l'enregistrement reprendra. Je vais laisser la parole au secrétariat qui nous présentera ces points divers ainsi que les informations nécessaires aux recommandations du comité. Pour savoir si nous recommandons au directeur général de l'OMS et de la FAO d'accepter les demandes de ces ONG, car c'est au final aux directeurs généraux de prendre cette décision.
Thank you very much.
Merci, Monsieur le Président. Vous avez déjà décrit le processus. Le comité donne ses conseils et sa recommandation est en général connue à l'avance par le secrétariat et ainsi que les services juridiques du Codex de façon à garantir leur conformité aux règles aussi bien du manuel de procédure que des organisations concernées, c'est-à-dire la FAO et l'OMS. Si vous vous penchez sur le document CX-10-64-5, vous avez déjà l'ex-association générale des chimistes de céréales. Ils s'appellent maintenant AACC International pour refléter leur nature internationale. Nous n'avons rien relevé de gênant dans leur demande d'admission. Je me tourne au comité exécutif pour en connaître son avis sur la question.
Thank you, Secretariat. Are there any comments?
Merci. Y a-t-il des commentaires par rapport à cette demande d'admission? Je n'en vois pas. Nous pouvons donc conclure que le comité approuve cette recommandation. Nous passons à la demande suivante. Secrétariat, s'il vous plaît.
Thank you very much, Mr. Chair.
Merci, Monsieur le Président. La deuxième organisation, FKEFFCA, l'association de culture européenne d'aliments. Donc l'admission a fait l'objet d'une étude par les services compétents qui n'a rien décelé d'inapproprié. Donc nous demandons l'avis du comité.
Comments for this application?
Des commentaires relatifs à cette demande, il ne semble pas y en avoir. Nous passons donc à la troisième organisation.
Thank you very much, Mr. Chair.
Merci. La troisième est la Fédération internationale des normes de production. Il s'agit d'une organisation, une des rares organisations qui fait sa première demande. Elle travaille à la mise en œuvre de normes internationales pour les prix. Vous avez pu voir ces petites étiquettes que vous trouvez sur des fruits et qui sont difficiles à décoller. Ça ne devrait pas être le cas. Et d'après les normes, ces étiquettes ne devraient laisser aucune trace sur les fruits. Mais cela permet d'en déterminer les prix lorsque vous passez à la caisse. Voilà donc de quoi il s'agit. J'ai assisté à l'une de leurs rencontres et l'établissement de ces normes est en fait une chose très complexe. Quoi qu'il en soit, cette demande d'admission a été vérifiée par les services juridiques ainsi que nous-mêmes. Nous sommes posés des questions par rapport à leur forme d'organisation. C'est une espèce de compagnie, en quelque sorte, d'entreprise. Mais après clarification, nous avons compris que ce type d'entreprise garantie est la forme normale pour les ONG au Royaume-Uni. La demande d'admission est donc en ordre et j'attends les commentaires du comité exécutif.
Thank you, Tom. Well, I could be afraid that your remarks about the sticky surface might...
Je pense que nous allons essayer d'éviter tout problème. Y a-t-il des objections juridiques? Cela ne semble pas être le cas. Je ne vois pas de demande d'intervention, donc nous pouvons conclure que le comité exécutif recommandera à la CAC ou l'informera que nous recommandons l'admission de ces organisations pour que les directeurs généraux les admettent en tant qu'observateurs. Nous avons donc terminé le point 6 et nous rallumons l'enregistrement électronique. Et nous passons directement au point 7 de l'ordre du jour, qui comporte deux éléments. Petit A, le projet et le fonds fiduciaire à l'appui d'une participation renforcée au Codex. Et petit B, les questions découlant de la FAO et de l'OMS. Nous allons procéder par ordre, en commençant par le premier point A, le fonds fiduciaire. Permettez-moi de trouver mes documents. Nous avons deux documents. Nous avons le rapport d'avancement des travaux et la révision intérimaire qui sont présentés au comité exécutif et ensuite à la commission. Mais nous allons avoir un débat à ce sujet concernant l'examen demi-parcours qui doit sûrement être très intéressant aussi bien pour ce comité que pour la commission, puisque cela a trait aux questions qui peuvent être tirées, apprises des 6 premières années de l'existence de ce fonds fiduciaire. Il contient également des recommandations. Mais la question du fonds fiduciaire est gérée par le programme joint FAO-OMS. Donc dans quelques instants, je vais donner la parole à l'OMS. Mais avant tout, peut-être devrais-je demander au secrétariat ou à l'OMS à eux de décider de nous donner des informations quant à la distribution des documents. Je crois que c'est une information importante. Il est nécessaire que le comité sache ce qu'il est advenu et quels sont les documents que nous avons à notre disposition, aussi bien pour ce comité que pour la commission. Donc si le secrétariat pouvait nous expliquer comment les documents avaient été distribués, cela nous serait très utile avant d'entamer la présentation.
Thank you, Mr. Chair.
Merci, Monsieur le Président. Nous avons distribué les documents en anglais uniquement et nous ne pensons pas qu'une traduction française soit prête à temps. Le secrétariat du Codex a distribué le document une fois qu'il a été reçu. Donc, pour ce qui est de la préparation du document, je vous renvoie aux collègues responsables du fonds fiduciaire et de sa gestion.
Thank you, Secretary.
Merci au secrétariat. Je donne donc immédiatement la parole à l'EMS qui nous expliquera davantage ce qu'il en est par rapport aux documents que nous avons sous nos yeux.
Good afternoon, ladies and gentlemen.
Bon après-midi à tous. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous et de pouvoir participer à vos délibérations lors du CAC de la semaine prochaine. Pour ce qui est des documents, tout d'abord le rapport annuel 2009 et le 13e rapport d'état d'avancement des travaux. Nous avons réalisé beaucoup de changements internes dans le fonds fiduciaire du Codex au cours du mois dernier, ce qui a eu un impact négatif évident sur la disponibilité de ces documents à temps. Donc le rapport annuel et le rapport de progrès a été envoyé très tard au secrétariat. Il a été envoyé le même jour à nos traducteurs internes. Évidemment, la section de la traduction nous a dit qu'il n'y avait aucun moyen de traduire ces documents à temps. Et la décision a été prise soit de traduire tous les documents dans toutes les langues en même temps, et si ce n'est pas possible, de les envoyer en anglais seulement. Cela concerne le rapport de progression ainsi que le rapport annuel de 2009. Pour ce qui est de l'examen demi-parcours, nous avons reçu ce document un peu plus tôt et nous souhaitions vérifier certains des chiffres qui apparaissaient dans les tableaux relatifs à notre travail sur le rapport annuel 2009 ainsi que le rapport de progression. Et à la fin du mois de mai, ce travail a correspondu avec les changements internes. Il y a eu un manque de communication qui s'est ensuivi. J'aurais pu envoyer un email beaucoup plus tôt au secrétariat du Codex pour leur dire de transmettre le rapport plus tôt, ce qui n'a pas été fait. Donc ce problème de communication est dû à moi-même. Nous avons envoyé le document la première semaine de mai au traducteur. Il y avait l'Assemblée mondiale et on nous a dit que ces traducteurs ne pourraient pas commencer la traduction des documents avant la fin de l'Assemblée mondiale. Nous avons essayé de faire en sorte que le résumé soit au moins disponible dans toutes les langues pour qu'il accompagne le rapport entier en anglais. Et c'est seulement maintenant que nous commençons d'obtenir les versions traduites du rapport entier. Nous avons l'arabe et le chinois. Mais d'autres versions, les versions dans d'autres langues ne sont pas disponibles à moins que tous les documents soient disponibles également dans ces langues. Et je suis entièrement responsable et j'assume la responsabilité de ce problème.
Thank you, WHO.
Merci à l'OMS. Des questions, des commentaires par rapport aux documents qui nous sont présentés, sur lesquels nous allons travailler? Tel n'est pas le cas, donc nous remercions l'OMS pour les informations apportées. Je pense que nous pouvons donc continuer sur cette base. Je demanderai à l'OMS, pour commencer, de nous expliquer quelle sera la procédure à suivre avant de présenter les documents et de dire au comité quel est l'objectif de ces présentations et quel type de réponse ou de réaction est attendu par l'OMS, du comité exécutif et plus tard de la commission. Je crois qu'il est important que l'on sache ce que l'on attend de nous de façon à nous aider à cibler les commentaires que nous allons émettre une fois les présentations réalisées.
Thank you, Chair.
Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, du rapport de situation et du rapport général, je crois que tout cela renvoie plutôt au CAC. Je n'avais pas l'intention de faire de une présentation par rapport annuel ou le 13e rapport de situation. Je souhaitais utiliser ce temps pour faire une courte présentation par rapport aux recommandations liées à l'examen de mi-parcours. Si tout le monde est d'accord, et j'ai l'assentiment du secrétariat du Codex, le rapport annuel et le 3e rapport de situation, à moins que vous ayez des commentaires à faire à leur sujet, qui seront évidemment pris en compte, seront transmis au CAC. Pour ce qui est de l'examen de mi-parcours, permettez-moi de vous expliquer comment nous envisageons ce processus et permettez-moi de voir si vous êtes d'accord avec cette procédure. Donc l'examen de mi-parcours est un document assez long et très dense avec un résumé que vous pouvez trouver au tout début du rapport. Nous avions prévu que Dr. Kim Force, le consultant principal qui a été à la tête de l'équipe d'évaluation, nous fasse une présentation. Il devait arriver ce soir et faire sa présentation demain. Comme vous avez réalisé un travail très prompt, il se prépare maintenant et je vais faire une présentation à son nom, à sa place. La FAO et l'OMS avaient des questions à soumettre au CCEXEC pour vous aider à cibler vos commentaires et vos discussions sur des questions qui nécessitent une participation stratégique. Pour que vous jouiez votre rôle en tant que comité exécutif, il est nécessaire que vous focalisiez sur les questions stratégiques pour lesquelles vous pourriez peut-être émettre des propositions ou des orientations, des recommandations à la commission la semaine prochaine. Voilà comment nous envisageons le processus. Le but étant de clarifier votre rôle pour ensuite faire un résumé des décisions, recommandations émises qui seraient incluses dans le rapport du comité exécutif soumis ensuite à la commission. Voilà donc pour la procédure à suivre. Merci à l'OMS et merci de nous avoir présenté la marche à suivre et ce qui est attendu de nous et ce que l'on souhaite obtenir de ce débat. Vos renseignements sont très clairs. Je crois qu'il est très clair pour tous. Si personne ne demande la parole, je crois que nous pouvons continuer. Mais avant d'entamer la présentation de l'examen de mi-parcours, je crois que nous acceptons tous que cet examen de mi-parcours est le point central du débat de cet après-midi. Il pourrait néanmoins y avoir des remarques liées au rapport annuel. Nous ne sommes pas censés en parler aujourd'hui. Il sera envoyé directement à la CAC, mais si quiconque a des objections ou des commentaires à faire, je crois qu'il faudrait les faire maintenant avant que l'on passe au point central, c'est-à-dire l'examen de mi-parcours. Mais je ne vois aucune réaction de la part des délégués. Ah, si, j'en vois une. L'Amérique du Nord, s'il vous plaît. Nous avons une question par rapport au tableau. Peut-être que je comprends mal. Tableau 5, contribution. Pages 8 et 9, et je parle du rapport annuel. Je pense que nous recherchons tous nos contributions et nous ne les voyons pas, ce qui m'inquiète. Pour 2009, j'espère que vous les avez. Merci à l'Amérique du Nord. Je vais demander à l'OMS de répondre. Merci aux États-Unis. Oui, nous avons pris en compte vos contributions, mais permettez-moi d'expliquer. comment les contributions sont prises en compte et enregistrées. Vous savez aussi bien que moi que ces contributions ont été faites en septembre 2009. Comment les contributions sont-elles prises en compte à l'OMS? Elles sont enregistrées dans nos comptes avec une date qui leur est apposée au moment de la réception. Le vôtre n'a pas été enregistré avant le 31 décembre 2009. Donc, référez-vous à la page 31, section financière, tableau 4. Et j'espère que vous pourrez y voir la contribution des États-Unis. Il s'agit du 13e rapport de situation. Oui, donc vous pouvez bien y voir vos contributions. Merci.
Thank you, WHO. I think that was...
Merci. Y a-t-il d'autres délégations? Le coordinateur pour l'Amérique latine. Merci, Monsieur le Président. J'ai juste quelques questions par rapport au dernier rapport. Les tableaux de l'annexe A, on peut y voir la Jamaïque en tant que pays qui peut encore recevoir des contributions. Et Michael a reçu une contribution du fonds fiduciaire d'après lequel il ne pouvait pas recevoir d'aide du fonds alors qu'on lui a fait comprendre d'après le rapport qu'il pourrait en recevoir pour d'autres. Et cette année, on lui a dit qu'il ne pourrait pas recevoir d'aide financière. Il y a d'autres imprécisions, par exemple, pour Saint Kitts et Nevis, il est dit que le groupe peut recevoir une aide pour une réunion et on peut voir que le Nicaragua, qui peut recevoir 4 aides, en reçoit en fait 5. Et donc il faudrait clarifier ces imprécisions. Merci, Monsieur le Président.
Thank you, Latin America and the Caribbean.
Merci à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Avant de demander à l'OMS de répondre, nous donnons la parole aux représentants pour le Pacifique Sud-Ouest. J'ai une question similaire à poser. L'annexe B parle des pays qui doivent être soutenus par le fonds fiduciaire de janvier à décembre 2010. Et pratiquement 50 pays avaient droit à cette aide. Et de ces 50 pays, je crois qu'il serait plus utile de savoir lesquels d'entre eux ont reçu bel et bien cette aide. Certains ne sont pas arrivés à cesser fixe. Mais il serait plus juste, plus correct d'indiquer quels sont les pays qui ont reçu cette aide plutôt que simplement d'indiquer quels sont ceux qui y avaient droit.
Thank you, Southwest Pacific. I will be...
Merci, je demanderai à l'OMS de répondre tout de suite. Merci. Pour ce qui est de la question portant sur l'annexe A, page 32, groupe de pays ayant droit aux aides, je sais que cela peut poser problème, mais cela concerne la période commençant en août 2009. Donc il s'agit des pays qui ont le droit d'envoyer une demande d'aide pour l'année calendaire suivante, à partir d'auguste, c'est-à-dire plusieurs mois avant que nous ayons terminé d'apporter notre aide au pays pour l'année en cours, c'est-à-dire dans ce cas-là, 2009. Que se passe-t-il après? Nous ne pouvons pas retirer la Jamaïque de cette liste, puisque il se pourrait que la Jamaïque participe à une rencontre entre septembre et décembre qui correspond au soutien qui lui est accordé pour cette année calendaire, ce qui signifie qu'elles seront incluses dans l'autre tableau pour l'année suivante. Mais si la Jamaïque n'a reçu aucune aide pour 2009 et que l'on ne sait cela qu'en décembre, une fois terminées les réunions du Codex, si la Jamaïque n'a reçu aucun soutien financier pour cette année civile, eh bien, ils ont toujours droit à cette aide en 2010. Donc, ce n'est pas avant le mois de décembre que l'on peut voir que tout le monde, qui a reçu cette aide combien de fois pendant l'année, que l'on peut dire que tel ou tel pays n'a plus droit à ces aides en 2010. Mais je ne peux pas le faire au mois d'août. Et cette liste de pays est établie en août. Voilà pourquoi il est précisé à partir du 30 août 2009. Je me rends compte que cela peut porter à confusion, mais c'est une liste qui est publiée sur le site internet, donc on essaie de rester cohérent, de prendre ce qui a été publié, rendu public, et nous essayons de, sans les modifier, de les inclure dans le rapport. Nous informons toujours les pays qui n'ont plus droit à ces aides. Donc il y a toujours une espèce de retard dans le temps entre ces deux types d'informations. Voilà pourquoi vous pouvez toujours trouver la Jamaïque dans ce tableau, alors que cette dernière a touché toutes les indemnités auxquelles elle avait droit pour l'année 2009. Pour Saint-Kitts-et-Nevis et le Nicaragua, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Pour ce qui est de la question du membre pour le Pacifique Sud-Ouest, nous sommes à une période où nous disons c'est toujours comme ça que nous avons fait par le passé. Nous avons toujours dressé des listes des personnes qui avaient droit à ces aides. Ces listes se basent sur les informations que nous avons au début de l'année. Et ce n'est qu'une fois obtenu le rapport annuel que nous rédigeons cette annexe qui précise, par exemple, qu'en 2009, tel ou tel pays a reçu une aide pour assister à telle ou telle réunion. Bon, il n'a pas eu de CCFX en 2009, mais en tout cas, c'est là que nous précisons qui a reçu une aide, qui a participé à une réunion et a eu droit à une assistance financière du fonds fiduciaire. Alors, dans ces rapports de situation, est-il toujours utile d'avoir une annexe précisant les programmations d'aide attribuées? Nous savons tous qu'il y a une différence entre les pays qui se voient informés du fait qu'ils obtiendront un certain niveau d'aide en janvier et la situation à la fin de l'année, qui est très différente.
Merci. Encore une remarque de l'OMS. Je voulais simplement suggérer qu'au comité exécutif, une réunion très importante au plan stratégique, il serait extrêmement utile pour l'OMS. Même si nous vous fournissons le rapport beaucoup trop tard, et mea culpa, vous pouvez nous critiquer autant que vous le voulez, pas de problème. Mais ne perdez pas votre temps à pinailler sur des questions mineures que nous allons pouvoir expliquer si vous nous posez directement la question. Ou si vous assistez à une des 3 ou 4 réunions spécifiques qui seront organisées dans le cadre desquelles nous vous expliquerons tout sur les tableaux et la manière dont ces listes sont établies. Je vous encourage à utiliser le temps qui vous est imparti à formuler des orientations stratégiques générales plutôt que de vous attacher à des questions très précises. Je sais que ces questions sont aussi importantes pour des pays donnés, mais je pense que l'on pourrait mieux utiliser le temps dont dispose ce comité si l'on se penchait sur les grandes questions sur lesquelles nous souhaitons avoir votre avis. comme par exemple, devrions-nous passer à l'objectif 2 et 3 plutôt qu'à l'objectif 1? L'objectif 1 vise à amener les gens à la réunion, objectif 2, renforcer la participation, objectif 3, renforcer la participation technique et scientifique. Ces questions sont des questions fondamentales. Devrions-nous nous lancer sur cette voie? Donnez-nous faites-nous part de votre avis, même si nous présentons les rapports beaucoup trop tard. Nous aimerions aussi savoir si vous pensez que l'on devrait se doter d'un mécanisme pour favoriser la participation physique des pays dont la participation est en baisse une fois qu'elle ne peut plus bénéficier d'un soutien. Alors voilà les questions. Oui, je m'arrêterai là. Devrions-nous utiliser des fonds pour les pays qui ont déjà bénéficié d'un soutien? Je pense que là, nous aurions besoin de vos conseils et de vos orientations. Donc, donnez-nous ces orientations stratégiques dont nous avons tant besoin en reconnaissant que nous vous avons transmis le document bien trop tard. C'est certain, je me suis déjà exprimé beaucoup trop longtemps, je m'arrêterai là. Merci, représentant de l'OMS. Nous avons pris bonne note de ces conseils et je suis certain que nous reviendrons aux questions plus stratégiques déjà évoquées. Mais sachant bien entendu que les délégations sont libres de poser les questions qu'elles souhaitent poser. Coordonnateur Sisilac. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, si le rapport ne nous donne pas une image réelle de l'utilisation du fonds fiduciaire, nous ne pouvons pas évaluer en connaissance de cause la situation. Et il est donc important que l'on nous brosse le tableau réel de la situation et non pas que l'on nous dise ce que l'on voudrait faire ou quels seraient les désirs de tel ou tel pays. Je m'arrêterai là et peut-être pourrions-nous passer au rapport à mi-parcours. Merci. Intermédiaire. Merci au coordonnateur Amérique latine et Caraïbes, Pacifique Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Je serai brève, moi aussi. J'appuie ce qui a été dit par la préopinante. Ce document est un rapport de situation qui couvre les 6 premiers mois de l'année 2010. Certaines de ces réunions se sont déjà tenues. Je pense donc qu'il est important que les chiffres pour ces pays et ces réunions qui ont déjà eu lieu reflètent vraiment la situation. Certains pays peuvent utiliser ces fonds pour assister à des réunions s'ils ne l'ont pas encore fait. Pour certains d'entre nous, pays hôtes, il est utile de disposer de ces informations, mais il est aussi utile que le comité exécutif sache qu'un certain nombre de pays, pour une raison ou une autre, quelle qu'elle soit, n'ont pas bénéficié d'un soutien. Donc, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec les représentants de l'OMS. Ce ne sont pas uniquement des questions qui concernent certains pays.
Thank you, member.
Merci, madame. Je vais donner la parole à l'OMS pour réagir à ces dernières interventions. Madame. Je pense qu'à ce stade, la meilleure réponse à vous donner est que nous avons pris bonne note de ces interventions. Nous allons les étudier de plus près pour voir comment nous pourrions procéder à l'avenir, peut-être faire différemment en tenant compte du fait que lorsque des réunions ont déjà eu lieu, parfois le rapport de situation couvre une période différente de l'année. La grande majorité des réunions n'auront pas eu lieu au moment où le rapport sera préparé, donc nous devrons en tenir compte. Et peut-être pourrions-nous, Madame le coordonnateur Amérique latine et moi-même, discuter de la manière dont nous pourrions présenter les choses différemment. Voilà ce que je vous propose de faire. Merci. Il me semble que cette proposition pourrait en effet nous faciliter la vie. Il n'y a plus de demande de parole sous ce point de l'ordre du jour. Je pense donc que nous pouvons passer la parole à l'OMS pour son exposé sur l'examen à mi-parcours, l'élément clé de la discussion de cet après-midi. Merci. Eh bien, je vais essayer d'intervenir au nom du docteur Kim Force, qui m'a transmis cette présentation que j'ai résumée en trois transparents. J'espère ne pas le trahir. En ce qui concerne les conclusions, vous trouverez le contexte des recommandations. Il est dit qu'un des trois objectifs a été atteint. L'on a constaté que pour les pays bénéficiaires, les retombées étaient considérables. Alors, ils ont établi un distinguo entre les attributions et les contributions, parce que le fonds fiduciaire a apporté une petite contribution, pour autant que l'on puisse parler de contribution, sachant que d'autres facteurs ont débouché sur les changements opérés au niveau des pays. Ils ont constaté une grande pertinence par rapport aux travaux du Codex. Ce sont les entretiens qui ont permis de le déterminer. Et de manière générale, on a estimé que la mise en œuvre était efficace et efficiente. Certes, les choses peuvent toujours être améliorées. Ils ont indiqué que lorsqu'il n'y a pas de problème, il ne fallait pas essayer d'en créer. Il faudrait néanmoins voir si certains points pourraient être améliorés et si des changements stratégiques devaient être envisagés. On a demandé donc des recommandations quant aux mesures qui pourraient être prises dans ce sens. Nous avons donc sept recommandations. Premièrement, modifier l'approche, essayer d'atteindre les objectifs 2 et 3. Le premier concernait l'élargissement de la participation au Codex, donc accroître, améliorer la participation physique. Au réunion, l'objectif 2 concerne le renforcement de la participation efficace, l'efficacité de la participation. Donc là, cela renvoie à la formation. Troisièmement, il s'agit d'améliorer les contributions scientifiques et techniques des pays en développement et l'économie en transition. Et ce sont les objectifs 2 et 3 qui ont été mis en exergue. Alors, on a dit que 7 cours de formation avaient été réalisés au titre de l'objectif 2, mais pas grand-chose sur l'objectif 3. Ils pensaient que ici, l'on avait réagi à des nouveaux besoins et que cela renvoyait donc à l'avantage comparatif du fonds fiduciaire. La question posée est une question stratégique et qu'elle a un réel défi à relever. Deuxième recommandation, mettre l'accent sur les pays qui en ont le plus besoin. Par le passé, la force du fonds fiduciaire tenait à sa couverture, en sa couverture universelle. Ses critères, son objectivité. Il s'agissait de faire en sorte qu'un pourcentage donné soit attribué aux pays les moins avancés. Donc nous avons toujours ce rapport 60-30-10. On a estimé que le processus était clair et transparent. Néanmoins, ils ont indiqué qu'il n'y avait pas un soutien unanime. Vous trouvez dans le rapport des informations détaillées sur les entretiens menés. Et des informations détaillées sur le fait que les pays d'Amérique latine estimaient qu'elles n'avaient pas bénéficié du fonds fiduciaire autant que d'autres pays. Troisième recommandation, associer d'autres pays aux activités et projets. Ils ont estimé ici que l'on pourrait davantage tirer parti des pays qui avancent plus rapidement que d'autres. En d'autres termes, lorsque certains quittent le fonds fiduciaire, n'en ont plus besoin, ayant acquis une somme de connaissances et d'une certaine capacité, eh bien, ils pourraient être utilisés au titre de la coopération Sud-Sud, par exemple, pour accroître la participation de ceux qui en ont le plus besoin. Ils ont aussi estimé que l'on devrait davantage renforcer les réseaux, notamment régionaux et sous-régionaux. Recommandation numéro 4. En fait, elle va dans le sens de ce que nous avons essayé de faire, notamment le nouveau processus de demande qui était lancé, et utiliser le processus de notification obligatoire pour imposer un certain contrôle qualité, pour utiliser ces procédures de requête pour renforcer les capacités des pays, faire en sorte que les partenaires multisectoriels soient associés au processus. Cela a été un atout par le passé, cela a permis d'améliorer la légitimité, il s'agit d'un processus transparent et ils estiment que le fonds fiduciaire est sur la bonne voie et devrait continuer d'utiliser ces procédures de requête et de notification du mieux possible. La recommandation 5 insiste sur le fait qu'il s'agit de mettre l'accent sur vos niches. L'on évoque les points de contact du Codex comme groupe cible. Il s'agit de mettre l'accent sur les biens publics qui bénéficient à tous, pas uniquement à certains. Par exemple, les matériels de formation didactique, renforcement des réseaux, des activités transversales entre les pays, parrainage, etc. On mettra l'accent sur les services centraux de liaison. Recommandation 6, renforcement de la collaboration avec d'autres acteurs. On a estimé il faudrait systématiser les interactions avec la FAO et l'OMS. Ces contacts sont déjà excellents, mais ils devraient être peut-être davantage encadrés. Ils ont estimé que l'on pourrait travailler avec des groupes de travail et peut-être avec le STDF et renforcer les contacts et la collaboration avec d'autres partenaires associés au renforcement des capacités du Codex et qui favorise la participation. L'on mentionne notamment l'Union africaine, le bureau IBAR, la SACAO, et bien entendu l'Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture, l'ICA. Ils ont ajouté que la coordination doit se faire de manière pragmatique, axée sur la division du travail. Il est plus important que les plus grands intervenants se chargent eux-mêmes de certaines parties du travail. Dernière recommandation, renforcement du suivi et de l'évaluation, notamment en mettant l'accent sur la qualité de la participation, les activités au niveau national et les changements à apporter au plan de la sécurité sanitaire des aliments. La sécurité sanitaire, donc. En ce qui concerne le fonds, deux scénarios sont envisagés. Prolongation du fonds, sachant que 12 années s'achèveront bientôt avec succès et peut-être que ce succès devrait être récompensé. Donc, estime que les besoins sont permanents en termes de recherche, de renforcement des capacités. Chaque année, nous le constatons. Nous savons que le processus est dynamique, ne cesse d'évoluer chaque année. Autre possibilité, mettre un terme au processus. D'aucuns estiment que s'il a été mené à bien, si les fonds ont été utilisés d'une manière efficace et efficiente, le projet devrait s'achever. Ce qui est une bonne pratique et un bon exemple. Alors, ils ne se sont pas prononcés dans un sens ou dans l'autre, ont simplement avancé les arguments et ont demandé une évaluation conjointe et détaillée, non pas seulement du fonds fiduciaire du Codex, mais de l'ensemble du tableau. À la fin, l'existence du fonds fiduciaire pour voir s'il faudrait y mettre un terme, éventuellement créer autre chose, ou si son mandat devrait être prorogé. Merci.
Thank you. WHO.
Merci l'OM. Merci madame. Y a-t-il des réactions initiales?
Ok.
Bien, nous allons procéder de la manière suivante. Comme je l'ai indiqué, si vous avez des commentaires à formuler à titre initial, vous pouvez bien entendu le faire, suite à quoi nous donnerons la parole à l'OMS pour que l'on pose les questions stratégiques à plan. Une réponse de la part du comité coordination CCLAC, s'il vous plaît. Mike Latin arrive. Merci, Monsieur le Président. Quelques remarques très brièvement au sujet de ce rapport. Pour ce qui est du tableau numéro 9, groupe de pays et soutien pour la participation aux réunions. J'aimerais savoir d'où l'on a tiré ces informations. Proviennent-elles du premier groupe de pays qui avait été établi dans l'affirmative au 3B à partir de 2008, il ne devrait plus y avoir de pays. En ce qui concerne ce qui a été dit sur le fait que les pays d'Amérique latine n'étaient pas satisfaits de l'utilisation du fonds. Peut-être que cela est dû au fait que 16 des 23 pays visés sont de cette région. J'aimerais savoir comment les pays ont été choisis, notamment ceux avec lesquels les entretiens ont été réalisés. Alors, je ne vois pas comment on a choisi les années visées. L'on n'a pas évalué la participation réelle des participants aux réunions. C'est une chose que le Fonds fiduciaire les aide à participer à la réunion, c'en est une autre que d'évaluer leur participation effective à ces réunions. Alors, j'attendais, j'avoue, davantage de ce rapport, davantage de solutions créatives. J'aurais souhaité que l'on propose peut-être un soutien, ne serait-ce que partiel, le financement des billets d'avion, pour leur permettre de participer davantage aux travaux. Et que l'on évalue leur participation sur une longue durée. évaluer l'efficacité de leur participation, parce que c'est une chose que d'être présent, c'en est une autre que de participer de manière efficace aux travaux. Merci.
Thank you, coordinator from Latin America.
Merci, madame. J'imagine en effet que des questions peuvent être posées sur la manière dont le rapport a été rédigé, questions auxquelles l'OMS ne pourra pas répondre parce que ce n'est pas l'OMS qui l'a préparé. Nous n'en avons pas les auteurs parmi nous, mais si l'OMS peut essayer de répondre, l'OMS le fera, sachant que nous ne pourrons pas obtenir des réponses à toutes les questions aujourd'hui. Le conseiller Amérique du Nord a la parole. Merci, Monsieur le Président. Quelques observations. Sachant qu'il ne s'agit pas d'une analyse approfondie du rapport ou de l'exposé qui vient d'être fait. De toute évidence, la situation financière de tous les pays, donateurs ou bénéficiaires, va nous amener collectivement à étudier de plus près encore la manière dont les fonds sont alloués. Ce qui sera clairement le cas pour les pays donateurs. Je pense que le fonds fiduciaire, tout comme toute autre institution fournissant un soutien, risque d'éprouver des difficultés à trouver tous les fonds nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Ce qui nous amène de toute évidence à envisager plus encore une affectation des fonds basée sur les résultats. Alors, je m'exprime au nom d'un pays de ma région, le Canada. La situation pour le Canada sera bien plus complexe. Il sera plus difficile de soutenir le fonds fiduciaire dans la mesure où nous aimerions pouvoir soutenir le codex et le développement du codex. Mais nous devrons mettre davantage l'accent sur les objectifs 2 et 3. Plus encore que par le passé, et mettre l'accent sur une approche axée sur les résultats. Nous devrons justifier les fonds alloués si nous voulons continuer de pouvoir appuyer ces activités et trouver des fonds supplémentaires. En ce qui concerne l'objectif numéro 3, la manière de le réaliser, peut-être faudrait-il envisager des approches plus créatives pour trouver des fonds supplémentaires, sachant là encore que trouver des fonds par le biais d'un transfert générique au fonds risque d'être problématique. Peut-être devrions-nous envisager davantage de soutien en nature pour certaines initiatives. J'évoquerai des initiatives mondiales ou régionales dont pourrait s'inspirer le fonds. Je songe notamment le forum coopération APEC et certaines activités de renforcement des capacités qui sont prévues et qui vont dans le sens des objectifs 2 ou 3. Voilà quelques observations tout à fait préliminaires que je souhaitais faire à ce sujet. Merci.
Thank you, advisor from Northern.
Merci au conseiller pour l'Amérique du Nord. Je pense que nous devrions donner la possibilité à l'OMS de répondre aux questions posées par le coordinateur Amérique latine et Caraïbes. Et je suis certain que nous reviendrons aux questions évoquées par le représentant de l'Amérique du Nord en ce qui concerne les priorités sur lesquelles le fonds devrait mettre l'accent à l'avenir. J'espère que le Conseil Amérique du Nord acceptera que nous répondions à ces questions plus tard. Je suis certain que nous y reviendrons. Donc, je vais donc commencer par donner la parole à l'OMS pour répondre à l'intervention du coordinateur Amérique latine. Comme le président l'a indiqué, ce rapport est le fruit d'une évaluation indépendante. Ce n'est pas nous qui l'avons préparé. Donc, le processus, la méthode, les entretiens et tout ce qui a été utilisé pour préparer ce rapport, je ne peux pas le justifier ou l'expliquer. Et une question très claire a été posée sur le groupe 3B. Pourquoi les pays dans ce groupe 3B ne sont pas encore sortis de ce groupe? Vous parliez du tableau 8, c'est bien cela, si j'ai bien compris. Tableau 9.
Number of supported participants. Okay, I think it's in fact my.
En fait, quel que soit le tableau, ma réponse sera la même. Je comprends pourquoi vous parlez du tableau 9. En fait, pour répondre à votre question, je dirais que si un pays appartenant au groupe 3B bénéficie de sa première année de soutien en 2006, ouais, soutenu pour la première fois en 2006, donc 2007, 50%, 2008, 50% et 2009, 0. Donc si quelqu'un du groupe 3B continue de bénéficier d'un soutien en 2009 ou 2010, cela signifie que ce pays n'a pas bénéficié du soutien du fonds fiduciaire du Codex avant 2007. 2007 étant la première année de soutien. Quiconque bénéficie du fonds fiduciaire depuis le début, donc de 2004, s'il appartient au groupe 3B, en 2007, il ne bénéficie plus d'un soutien. La première année de soutien détermine, bien entendu, la sortie de ce groupe. Pour certains, il y a des années pour lesquelles ils n'ont pas bénéficié d'un soutien, ils n'ont pas envoyé de demande, donc cela ne compte pas alors. Cette année ne compte pas. Est-ce que c'était cela le sens de votre question? Pourquoi certains continueraient de bénéficier d'un soutien 2009-2010?
And the source of it is the.
La source, c'est la base de données de participation du fonds fiduciaire du Codex qui recense toutes les aides financières pour chaque pays, pour chaque année, par ministère, genre et toute autre information. Je crois que nous devrions laisser au coordinateur le temps de répondre, puisque d'autres délégations souhaitent prendre la parole par la suite.
Gracias, señor presidente.
Merci, monsieur le président. Le problème tel qu'il est posé donne l'apparence que les pays du groupe 3B de 2005 à 2006 ont une participation par an. De 2005 à 2010, pardon, une participation par an, puisque le titre, c'est le nombre de participations par pays, par groupe, ce qui ne reflète pas la réalité, puisque les pays du groupe 3B, pour beaucoup d'entre eux, n'ont plus droit à l'aide à partir de 2008. Donc, ce tableau comporte des inexactitudes qui ne reflètent pas la situation réelle de l'application du fonds. Merci, Monsieur le Président.
Maybe Director Jorgensen has a response to the issue.
Peut-être que le directeur pourra répondre à cette question. Oui. Le coordinateur du LAC a raison. Ce tableau sert uniquement à montrer si vous avez toujours droit à l'aide, peut-être qu'il faudrait le préciser dès le départ, d'entrée de jeu, si vous n'avez pas droit à l'aide, voilà le nombre de participants que nous aiderons pour vous. Donc les pays, un pays du groupe 3B qui a toujours droit à l'aide d'ici à 2010 obtiendra une aide. Voilà ce qui devrait y être lu. Je conviens que cela pourrait être mieux expliqué et je conviens que cela n'est pas indiqué. Mais voilà l'idée qui sous-tend ce tableau. Donc vous nous posez une question, nous vous répondons. Voilà l'idée derrière ce tableau. Pour une fois, je suis sûr d'avoir raison.
Okay, we trust that WHO is correct in this one.
Nous sommes donc sûrs que l'OMS a raison sur cette question. J'espère que les doutes ont été dissipés. Sinon, il y aura toujours l'occasion d'en parler en tête à tête entre le coordinateur du LAC et le directeur de l'OMC. Le prochain intervenant est le coordinateur pour l'Afrique.
I'm really sorry. I noticed the member from Africa and the coordinator for Africa. I might have switched the order for them. I apologize.
Pardon, le membre de l'Afrique et le coordinateur de l'Afrique d'abord, s'il vous plaît.
Thank you, Mr. Chairman, and thank you, member from Africa, for deferring to me. I'm looking at this midterm review report, which.
Merci. Je vois que ce rapport nous donne des orientations par rapport aux prochaines années pour le Codex. Et en lisant ce rapport qui est très long, je prends note des observations qui ont été faites par le consultant qui a visité ces pays. Environ 10% des pays qui participent au Codex. Mais qu'est-ce que l'on a identifié dans ces pays qui ont servi de base à ce rapport, c'est très intéressant. Je voudrais parler des recommandations qui sont liées au fait qu'il faudrait se pencher sur la recommandation 6, améliorer la collaboration avec les acteurs les plus pertinents. Les ressources du Codex du Fonds fiduciaire ne seront pas disponibles pour toujours. Je crois que cet argent sert de stimulant, de catalyseur, pour aider les pays à se réveiller et à agir sur des questions qui appellent à l'action. Donc, le renforcement de ces liens est crucial à ce stade. L'Union africaine a reconnu l'importance de l'innocuité des aliments. Et à l'heure où je vous parle, beaucoup de rencontres ont été organisées qui impliquent des points de contact du Codex et d'autres acteurs clés dans la sécurité sanitaire des aliments sur le continent africain. Et cette tendance gagne en force. Et je pense que si nous trouvons davantage de ressources pour soutenir ces acteurs, eh bien, ce qui a commencé pourra grandir et avoir davantage d'impact grâce à la force des réseaux établis avec de nouveaux acteurs. Merci.
Thank you, member for Africa.
Merci aux membres pour l'Afrique. Je donne maintenant la parole au coordinateur de l'Afrique qui est le prochain intervenant. Pardon, je me trompe, le membre. Excusez-moi, je suis perdu, je m'excuse.
Merci, Monsieur le Président. On comprend la journée avancée, on est tous fatigués. Après l'intervention du coordinateur pour l'Afrique, je ne serai pas très long. J'ai essayé de lire un peu le rapport, mais malheureusement, comme je n'ai pas eu la copie en français, je n'ai pas pu aller trop en profondeur, mais de toute façon, j'ai pu retenir l'essentiel. Et moi, je suis très heureux de parcourir ce rapport que j'ai lu parallèlement aussi au rapport annuel. Et j'ai noté des choses très importantes. Je crois qu'un facteur important du succès du fonds fiduciaire qui apparaît et qui est une réalité, c'est que le fonds fiduciaire a été un catalyseur. Et on voit que certains pays qui, à leur début, n'étaient pas du tout impliqués dans les acteurs du Codex, sont avec juste le départ du fonds fiduciaire. Aujourd'hui, pratiquement, leur participation n'est pas obligatoirement dépendante de l'appui du fonds fiduciaire. Non seulement parfois les pays financent eux-mêmes plus des délégués, et même si le fonds ne finance pas, ils le financent. Même si j'ai remarqué que dans certains cas, ça commence à relâcher, mais ce n'est pas la ligne directrice. Et grâce à cela, ces participations, il y a eu un éveil de conscience intérieure qui a fait que beaucoup d'autres activités de sensibilisation et de prise de conscience de codex ont eu lieu. Maintenant, effectivement, on constate pour les deux objectifs suivants, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là aussi, il y a un certain nombre d'efforts de formation qui ont été faits par la FAO, même l'OMS. Je crois que pendant la mission, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains consultants et je reconnais un peu dans le rapport des choses sur lesquelles on a échangé. Effectivement, aujourd'hui, je pense que nous avons intérêt à continuer le support du fonds fiduciaire qui maintenant serait axé beaucoup plus sur les éléments que le coordinateur vient de faire, parce que dans beaucoup de régions aujourd'hui, il y a des organisations régionales ou sous-régionales qui sont organisées, qui sont prêtes à accompagner les pays, mais qui ont besoin encore d'un certain nombre de renforcements de capacités d'accompagnement. Et aussi, dans les pays, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ont les structures en place et qui ont besoin de renforcement. Et l'autre aspect qui est important, moi je pense qu'en tout cas beaucoup de régions, notamment les pays en voie de développement, les difficultés de générer des données scientifiques aussi, c'est une question sur laquelle je pense que l'appui prochain du fonds fiduciaire peut permettre d'aller. Moi, encore pour terminer, je pense que le fonds fiduciaire a eu des résultats positifs extraordinaires. Ce serait dommage qu'on ne puisse pas utiliser l'expérience qu'on a sur les résultats positifs du premier objectif, parce qu'on a mis l'accent là-dessus. Maintenant qu'on a vu sur ce plan, on a gagné du terrain, peut-être on peut faire l'accent sur les autres objectifs. Et bien sûr, pour les mêmes raisons, je pense qu'on aura de très bons résultats. Et je crois que après quelques années, beaucoup de pays n'auront plus besoin de dépendre de qui que ce soit pour avancer. Moi, je pense que, comme on dit, on ne change pas des chevaux qui gagnent. Donc, je suis parfaitement d'accord avec les consultants qu'il y a lieu de renforcer encore un peu plus cette participation en réorientant les efforts vers les objectifs pour lesquels on n'a pas beaucoup progressé. Merci.
Thank you, member for Africa.
Merci, membre pour l'Afrique. Je donne maintenant la parole aux membres pour l'Europe, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je me réfère aux opinions de ceux qui bénéficient du fonds fiduciaire, puisqu'ils ont beaucoup plus d'expérience que moi. Mais j'avais juste quelques observations à faire par rapport au rapport et au résumé que je n'ai pas eu l'occasion d'examiner en grand détail, contrairement aux membres pour l'Afrique. À mon sens, il y a une petite confusion ou un mélange par rapport aux recommandations, par rapport à la façon dont le fonds fiduciaire est géré. Si on se penche sur cette question, on peut voir que les recommandations nous expliquent comment doit évoluer le fonds. Il s'agit des objectifs 2 et 3. Il semble y avoir les conséquences par rapport aux autres travaux. L'établissement de réseaux avec les acteurs clés. Donc, il y a un mélange de plusieurs éléments. Quel est l'objectif ou le résultat de l'examen du fonds fiduciaire et quelles sont les autres recommandations? Cela pourrait être peut-être clarifié dans le rapport que je n'ai pas encore lu, je dois l'admettre. Pour ce qui est de la recommandation numéro 1, et ainsi que l'objectif numéro 2, là je dois beaucoup plus de détails. Alors, on a parlé de 12 pays pour l'Afrique, mais j'ai remarqué que le fonds fiduciaire devrait continuer de se focaliser sur la participation. Et au départ, il faudrait relever le fait que 1, 2 et 3 sont la conséquence d'une participation améliorée. Donc, augmenter la participation, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est renforcer la participation. Et ensuite, on a les résultats suivants. Donc, le premier objectif a très bien été réalisé. Il faudrait se concentrer sur la réalisation de l'objectif numéro 2 au lieu de se concentrer à la fois sur les objectifs 2 et 3. Je pense qu'il y a d'autres programmes FAO-OMS qui aideront les pays à envisager une participation scientifique en dehors du fonds fiduciaire. Et pour finir, on parle d'une évaluation de l'efficacité qui devrait être réalisée à la fin du programme d'évaluation, alors qu'elle devrait être réalisée quelques années avant la fin du programme, de façon à ce que des éléments soient en place dès le départ, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà donc mes observations d'un point de vue tout à fait stratégique.
Thank you, member for Europe.
Merci aux membres pour l'Europe. Nous allons écouter un dernier commentaire du coordinateur du Proche-Orient avant de redonner la parole à l'OMS.
I couldn't see them. Sorry.
Pardonnez-moi.
طبعاً اعتمدت على ال.
Merci, Monsieur le Président. J'ai dû me baser sur le résumé du rapport qui m'a été fourni en arabe. Mes observations sont les suivantes. Les conclusions tirées par l'organe indépendant qui a préparé le rapport ne contiennent aucun nouvel élément en fonction des... D'après les statistiques financières, les objectifs sont clairs. Nous les avons atteints. Il est donc important de passer aux objectifs 2 et 3. Ce qui est important, c'est que nous nous penchions plus en détail sur ces objectifs et que nous étudions davantage comment ces objectifs peuvent être atteints et mis en pratique. Car ce n'est que par le biais de la mise en pratique de ces objectifs que nous pourrons répondre aux nécessités évoquées dans les objectifs 2 et 3. Pour ce qui est du renforcement de la participation, comme l'a suggéré l'organe indépendant par le biais de la présentation de ces chiffres, les pays qui n'ont plus droit aux aides financières doivent continuer à contribuer. C'est très important car nous voulons savoir si ces pays qui ont bénéficié de l'assistance et qui n'ont plus droit à cette assistance sont ou non en mesure de continuer à contribuer par elles-mêmes ou si elles ont besoin d'aide supplémentaire. Et cela en soi sera un moyen efficace permettant d'évaluer les performances du fonds fiduciaire. L'idée n'étant pas de prolonger les indemnités, nous voulons que les pays reposent sur leurs propres forces pour continuer leur participation. Il est également important de se rappeler que certaines conditions doivent être respectées pour que le fonds fiduciaire puisse participer. Beaucoup d'institutions fiduciaires, telles que la Banque mondiale et l'OMS, imposent de telles conditions. Mais il nous faut également nous rappeler les capacités de chaque État membre avant d'imposer ces conditions. Nous ne pouvons pas imposer des conditions qui ne pourront pas être respectées au regard des capacités de certains pays. Il ne serait pas approprié d'imposer des conditions irréalisables à des pays, surtout les pays les moins développés, les moins avancés, ou les pays en transition. Nous connaissons tous les limitations budgétaires qui sont imposées à beaucoup de gouvernements. Et il serait difficile de leur imposer de telles conditions lorsqu'ils traversent des temps difficiles. Voilà pourquoi, en tant que comité exécutif, nous ne devrions pas oublier de penser de façon plus innovative à des alternatives pour ces régions. Prenons l'exemple de la Tunisie. Tous les programmes qui sont censés obtenir une aide du fonds fiduciaire n'ont pas obtenu cette aide parce que la Tunisie n'a pas pu se préparer à obtenir cette aide. Ma dernière remarque porterait sur le moyen de renforcer la mise en œuvre des objectifs 2 et 3. J'aimerais donc proposer aux membres de ce comité exécutif de travailler à l'élaboration d'un plan de travail commençant en 2011 avec une attention particulière portée sur les avis scientifiques, et nous pourrons tous participer à ce processus. Merci. Merci au coordinateur pour le Proche-Orient. Je donne maintenant la parole au coordinateur pour le Pacifique Sud-Ouest. Mais avant tout, pourrais-je demander que l'on place les signes un peu plus à gauche ou à droite, les petites pancartes, parce que je ne les vois pas forcément. Mettez-les bien en évidence, sinon je risque de faire davantage d'erreurs par rapport au nom et au titre de chacun. Alors, si je donne la parole au Pacifique Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais féliciter l'auteur du rapport. Et je suis tout à fait d'accord avec le coordinateur de l'Afrique. Un certain nombre de pays ayant été évalués sont peut-être ceux qui ont demandé le plus de fonds. Nous sommes donc très reconnaissants pour ces fonds qui ont été accordés aux régions qui les avaient sollicités pour les rencontres du comité du Codex. Je suis sûr que l'impact des objectifs 2 et 3 est varié au sein de ces plus de 126 pays qui ont participé. Et je ne suis pas d'accord avec le rapport d'après lequel l'objectif numéro 3 a connu peu de succès. J'ai quelques recommandations à émettre. Le dernier objectif. Nous avons beaucoup de chance au sein de notre région, puisque l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Nord ont décidé d'attribuer un rôle supplémentaire au coordinateur au profit des régions plus faibles. Cela a beaucoup renforcé notre participation aux réunions du Codex. Je fais référence à l'objectif numéro 2. Le nombre croissant de groupes de travail électronique au cours des 3 dernières années a également amélioré notre participation au travail du Codex, en dehors des rencontres du comité. Je ne sais pas si cela a été consigné dans les rapports. Tous les pays qui ont obtenu une aide du fonds financier pourrait peut-être se voir obligé de participer au groupe de travaux, de groupe de travail, pardon, ce qui permettrait de réaliser les deux derniers objectifs, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à ces objectifs que de participer, soit par le biais des groupes de travail, ou au sein, ou en se rendant aux réunions du comité. Merci.
Thank you, coordinator for SAP.
Merci au coordinateur pour le Pacifique Sud-Ouest. Le membre pour l'Asie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je regarde ici l'évaluation à mi-parcours. J'y trouve 7 recommandations. La recommandation 7 explique que la concentration sur la participation doit être tenue comme importante. Mais l'objectif 1 recommande des objectifs différents. La participation est déjà à un niveau acceptable, mais la participation dans les discussions scientifiques n'est pas suffisante. Donc, si l'on se concentre sur la participation, comment peut-on améliorer la mise en œuvre des efforts scientifiques? Ce point a déjà été soulevé par les deux consultants précédents, le docteur Kuna et le docteur Sorak. Le docteur Kuna a réalisé un plan d'action pour résoudre cette difficulté. Le docteur Sorak a émis des suggestions visant à relier cet objectif primaire qui est d'augmenter la participation et les deux autres objectifs, objectifs 2 et 3. Donc je crois que cet examen de mi-parcours devrait être interprété sur la base des examens précédents, les deux examens précédents. Si le secrétariat du Fonds fiduciaire ou si le consultant ou si les trois consultants pouvaient dégager toutes les leçons que l'on pourrait tirer de ces examens, nous pourrions dresser un tableau cohérent de la marche à suivre . J'espère donc que cet examen demi-parcours ne sera qu'une partie de leur analyse. Les deux autres examens précédents devraient être incorporés dans cette analyse de façon à ce que nous ayons une idée plus claire de la situation actuelle. Merci.
Thank you, Member for Asia, and the last speaker.
Merci. Le dernier intervenant sera le vice-président.
Thank you, Chair.
Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de remercier le Fonds fiduciaire du Codex pour son rapport. J'ai des commentaires. L'une des difficultés qui a été identifiée au cours du temps est celle des critères d'octroi de cette aide. Je dois avouer que je n'ai pas encore lu le rapport en entier, mais c'est un point qui doit faire l'objet de discussions et nous devons y trouver une solution. Mon deuxième commentaire porte sur la recommandation 1. Mettre l'accent sur le deuxième et troisième objectif. Normalement, lorsque l'appel aux demandes est envoyé, les membres ont la possibilité, ont plusieurs possibilités. Tout d'abord, la possibilité de la participation physique ou la formation en tant que participation, et l'option 3, l'apport de données scientifiques. Au cours du temps, beaucoup des membres ont opté pour la première possibilité, c'est-à-dire la participation physique, ce qui nous montre clairement qu'il n'est peut-être pas encore temps pour nous de considérer le premier objectif comme acquis. Lorsque ce programme a été conçu, on considérait que pour une participation efficace, on passerait de l'objectif 1 à l'objectif 2 et ensuite à l'objectif 3, de façon à garantir que les pays en voie de développement participent de façon effective aux travaux du Codex. Voilà pourquoi je propose ou je suggère qu'il n'est peut-être pas encore temps de nous éloigner de l'objectif numéro 1. Merci.
Thank you, Vice Maniendo.
Merci au vice-président Maniendo. La FAO a demandé la parole très brièvement avant que nous ne passions en revue de manière systématique les conseils qui doivent être prodigués. Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement revenir à une remarque formulée par le coordonnateur Proche-Orient. Toute décision prise par la Commission sur la base des suggestions que vous allez lui faire devra tenir compte d'un élément important, la planification. Lorsqu'à la FAO, nous avons préparé cette stratégie pour la fourniture des avis scientifiques sur l'innocuité des aliments que j'ai déjà évoqué. Lorsqu'il nous a fallu définir les activités à mener à bien pour soutenir les efforts des pays et produire des données, un des éléments clés a été la détermination des priorités régionales au sein du Codex dans ce domaine. À la lecture des résultats des réunions FAO-MS au niveau régional, nous sommes rendus compte que, par exemple, le Comité Amérique latine, il avait clairement défini ses besoins. Il parlait de résidus de pesticides, par exemple, et autres. Ainsi, sur la base de ces besoins clairement identifiés, il nous a été possible de mobiliser des ressources. Mais dans les autres régions aussi, il est nécessaire de définir les besoins régionaux pour pouvoir mieux planifier les choses. Je pense que les recommandations, je ne me souviens plus si c'était hier ou ce matin, recommandations du comité exécutif, à savoir travailler sur la préparation d'un plan stratégique ou révision d'un plan stratégique en consultation avec les régions, me semble être important pour pouvoir aller de l'avant dans ce domaine. Je vous remercie.
Thank you, FAO.
Merci à la représentante de la FAO. De nombreux éléments importants de ce rapport ont été évoqués par les délégations. Nous devrons faire attention à systématiser le débat pour pouvoir parvenir à des conclusions. Je le répète, le fonds fiduciaire n'appartient pas au Codex, il appartient à la FAO, à l'OMS. Et ce que nous souhaitons, ce sont des conseils stratégiques de la part du Codex à l'adresse de l'OMS et de la FAO. Et nous demanderons donc à l'OMS de nous poser des questions stratégiques pour les examiner les unes après les autres de manière systématique et ainsi pouvoir parvenir à des conclusions qui figureront dans le rapport et seront renvoyées à la CAQ. Mais avant cela, je pense que l'heure est venue de prendre une pause café. Nous reprendrons donc nos travaux dans 15 minutes. Bonne pause.